Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe dans l'Aude, à l'entrée de la petite commune de Berriac. Ici se trouve un poteau électrique installé dans les années 40, puis augmenté en 1968 de deux lignes aériennes à très haute tension de 225 000 volts. 1968, c'est aussi l'année où des familles gitanes s'installent dans des HLM construits rapidement après l'incendie du bidonville où ils vivent. De provisoire, les logements deviennent vite définitifs. Il se trouve, en outre, qu'ils ont été construits autour du poste de Moreau, le nom du poste électrique, au nord et à l'est. Au total, le dit poste regroupe 10 lignes à haute tension, gérées par RTE, Réseau Transport d'Électricité, une filiale autonome d'EDF. En arrivant, les habitants renomment pourtant les lieux Cité de l'Espérance. Mais l'espoir s'évanouit à la vitesse du courant qui passe, avec l'apparition de cancers, de maux de tête, de troubles dépressifs et de dérèglements thyroïdiens au sein de la communauté. Certains habitants y voient un lien avec les lignes électriques. 15 d'entre eux décident de saisir la justice administrative. Le cœur du dossier consiste à savoir deux choses. D'une part, s'il y a plus de pathologies dans cette cité qu'ailleurs, et d'autre part, s'il y a un lien de cause à effet entre les maladies et le fait de vivre à proximité de lignes électriques. On notera qu'en 2015, pour la première fois en France, la Cour d'appel de Caen a reconnu un lien de causalité justement entre des lignes à très haute tension et le lait dégradé de vaches paissant à proximité. L'agriculteur Thierry Charvel avait dû arrêter son exploitation en raison de cette dégradation. Le tribunal de Coutances lui a initialement accordé 142 000 euros de dommages et intérêts versés par la RTE et la Cour d'appel de Caen ne lui en a finalement octroyé que 37 000. Que se passera-t-il donc à Berriac? Quelle réponse donnera la justice? On commence par poser les bonnes questions jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture avec Judith Chétrit.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je ne sais pas si vous l'attendez pas le bruit là. Parce que là, comme il fait soleil, il n'y a pas du tout d'humidité, c'est vrai que là, du coup, on n'entend pas beaucoup. Mais alors, bon, c'est vrai qu'il s'avère que moi, avec le temps, comme c'est quelque chose que j'ai baigné tout le temps dedans, je ne l'entends plus. Mais par contre, dès qu'il est venu quelqu'un de l'extérieur, il me dit, mais c'est quoi ça? Voilà, on sent que c'est de l'électricité qui passe, quoi. On sent que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, quoi. Là, on est côté Cité d'Espérance, les 23 logements sociaux, puis les 15 terrains parties privatives, qui fait à peu près dans les 350 personnes. Comme vous avez pu le voir, de la route, les logements sont cachés. Et donc, on est vraiment dans la partie HLM, et on est, comme vous voyez, on a des habitations, on a juste la route à traverser, puis on a ces gros murs, hein, avec ces gros murs pare-feu à l'intérieur, et ces grosses alimentations qui font peur, parce que c'est énorme, quoi.
Donc là, on a différents pylônes qui se succèdent.
Alors, ces pylônes, c'est des transformateurs différents. Là, vous avez une série de transformateurs, là, vous en avez une autre, voilà, qui alimente chacun des secteurs différents.
Michel Soulès, le maire de la commune élu en 2014, est un enfant de la Cité de l'Espérance. Maire gitan, comme il se décrit lui-même, il ne l'a jamais vraiment quitté.
Les 7 premières années de ma vie, j'ai grandi dans un dépotoir. C'est une décharge publique où quasiment toutes les communautés gitanes du coin vivaient dans cette décharge. Puisque je suis né en 61 jusqu'en 67, donc je vivais dans ce dépotoir, pas plus malheureux qu'un autre, parce que je ne connaissais rien d'autre. C'est vrai qu'on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. Mais bon, moi j'avais l'amour de mes parents, mais ça me suffisait largement. Voilà. Et donc, en 67, justement, il y a eu un grand incendie qui était quand même assez important, qui a fait que il y a des associations qui se sont mobilisées à un moment donné pour venir en aide à cette communauté gitane qui vivait à la Cavaillère. Et donc, il a fallu trouver une solution d'urgence. Donc, il y a un terrain qui a été trouvé justement à Berriac. C'est-à-dire qu'ils ont fait une quinzaine de blocos en béton. Alors, ça a été fait en deux jours, hein, les blocos en béton, c'est des blocs de béton, boum, 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 ils ont mis 15 familles là-dedans. Et puis, les autres, on les a classés en ville. Parce que le but, c'était de les mettre en ville en attendant qu'il y ait une construction de 23 logements. Et puis donc, au bout d'un an, la cité Espérance s'est construite, les 23 logements HLM, et là, on nous a fait remonter à cité Espérance. Voilà. Là, on était vraiment tous, toute la famille, qui était un peu éclatée, mais tout le monde s'est retrouvé là. Et donc, depuis 68, donc, il y a la cité d'Espérance. Donc, quand je suis arrivé à la cité d'Espérance, à l'âge de 8 ans, il y avait ces 23 logements qui venaient d'être construits, plus ce transformateur EDF, qui était bien plus petit qu'aujourd'hui, puisque les puissances ont quasiment quadruplé. Et de plus, on ne voyait pas du tout d'aspect nocif, puisque quand on est arrivé à cette Espérance, il y avait même un gardien qui avait son logement à l'intérieur et il vendait des glaces. Pour nous, il n'y avait pas de quoi ça m'inquiétait. Et donc, j'ai passé toute ma jeunesse là, mais sans faire de relations avec des problèmes de santé, ni avec quoi que ce soit. Alors, moi, je me suis posé la question bien avant d'être maire. Hein. Ayant vécu là, j'ai vu énormément de gens partir du cancer, hein, parce qu'il y avait énormément de maladies. Et c'est vrai que je me suis, sans faire de polémique avec les gens, c'est ce que je pensais moi, sur les 23 logements HLM et sur les 15 maisons privées, toutes ont 2, 3 cas de cancer. Toutes.
Quel type de cancer ?
Cancer des poumons, cancer des vessies, cancer à thyroïde. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose des questions, quoi. Voilà. Je sais que le cancer, c'est une maladie actuelle, malheureusement, qui ravage énormément de monde. Mais quand on part sur un petit groupe comme ça, je me suis dit que peut-être, quand ils vont faire voir avec les médecins, peut-être à un moment donné, ils vont dire qu'on est quand même dans une... on n'est pas dans la normalité, là. À un moment donné, je croyais que ça allait être plus simple que ça, quoi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai été élu, puisque j'étais premier adjoint, ça a été la première chose que j'ai voulu savoir. Donc alerter l'ARS, et alors l'ARS est l'autorité régionale de santé, qui j'ai alerté, qui a fait une étude. Puis cette société, pour faire les mesures, je me suis dit, bon, ben, on va peut-être savoir si vraiment il y a quelque chose ou pas. Donc, dès qu'il y a eu la première mesure de fait, donc j'étais sur place, hein, j'ai vu la personne qui était en train de faire le relevé. Et, surprise, quand il me dit, ouf, elle me dit, vous êtes 10 fois au-dessus du seuil de la normale, elle me dit, vous risquez rien. Donc, j'avoue que j'ai pas compris, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le paradis. Ça veut dire bon. Et, après renseignement, j'ai vite déchanté puisque j'ai bien compris que cette société qui était venue était une sous-traitante de RTE et RDF. Voilà. Ce qui a fait que là, après, j'ai tout à fait compris pourquoi ils avaient ce discours-là, quoi. Alors, l'ARS a fait un rapport aussi. Alors, pour elle, les maladies de cancer pourraient être dues à l'alimentation. Bon, vous comprenez très bien qu'on n'est pas d'accord, parce que là où on se nourrit la population végétarienne, c'est dans les centres commerciaux, et on ne mange pas pire que les autres, donc c'est la même alimentation. Donc non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça non plus. Voilà. Donc, ce qui fait que juste après, ben justement, il y a eu un de la communauté végétale, Steven Kriegel, qui à un moment donné, lui aussi, ben, parce qu'il avait une ligne au-dessus de chez lui, il a décidé, lui, ben, de faire venir un expert. Alors, ce qui veut dire, ce qui a impliqué, c'est qu'il paye tout seul, puisqu'il a fallu qu'il le paye lui de sa poche, puisque c'était pour le câble qu'il avait au-dessus de sa maison. Et quand cet expert est venu, il a commencé par faire les relevés donc chez Steven. Il a dit, écoutez, vous êtes dans une zone invivable. Vous pouvez très bien passer, mais vivre en permanence sous cette ligne, c'est impossible. Et il a, par curiosité, il a dit, écoutez, ça vous dérange pas? Il a pris sa machine, en voiture, ils ont fait le tour de la cité d'Espérance. Mais il me dit, toute la cité d'Espérance, il me dit, allez, avec ces lignes, il y a des radiations qui passent partout. Donc, suite donc à ce rapport qui a été fait par cet expert, qui a été mené par la personne de la communauté gitane, le rapport était quand même assez costaud. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui se sont réunies et qui ont porté ce dossier avec un avocat pour faire un dépôt de plainte contre RTE-ERDF.
Après la plainte déposée par les habitants, le tribunal administratif de Montpellier a nommé un professeur spécialiste de la médecine nucléaire pour mener une nouvelle expertise sur les pathologies des habitants. Dans les conclusions de cette troisième étude, rendue le 29 décembre 2016, une même phrase revient. En l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de considérer que l'exposition mesurée aux champs électromagnétiques puisse être la cause de leur maladie. Une phrase qui vaut pour tous les dossiers, à l'exception de celui de Sandrine Baut, une mère de 31 ans. Dans son cas, je cite, « la piste ne saurait être catégoriquement écartée ».
J'avais 7 ans et on s'est aperçu avec un bilan sanguin que j'avais une leucémie. Et je suis restée jusqu'à l'âge de 10 ans hospitalisée à Toulouse. Avec la chimiothérapie, je suis restée après en isolement par rapport à la maladie. Mes parents ne pouvaient pas me voir. Et ma mère, avec mon père, mon grand-père aussi, ils sont restés dans un camping-car, quoi. Voilà. Ils vivaient dans le parking de l'hôpital. Bon, là, maintenant, ça va mieux par rapport à la maladie. Et j'ai la chimiothérapie qui m'a laissé une séquelle à la hanche. Et plus tard, je dois avoir une opération de l'ange. Ma mère avait dit déjà qu'on vivait par rapport au poste là. Et ils avaient dit que c'est peut-être ça qui le fait aussi. Par rapport à la maladie, tout ça. Et mon père, il est décédé d'un cancer. Ma mère, un cancer du sein. Mais voilà, tous presque, ils ont des migraines. De la tension aussi, problème de tension. Voilà. Il y a quelques années, il y a un voisin qui a voulu porter plainte. Alors, il m'a expliqué un peu ce qu'il allait faire, quoi. Et je me suis dit, peut-être, je vais le faire, le dossier. Et comme j'ai eu cette maladie, quoi, il m'a dit d'amener tous les papiers qu'il fallait, tout ça, à l'avocat, tout ça. Et maintenant, on attend, quoi. Il y a les experts qui sont passés chez moi, voir les mesures, pour voir combien il y avait de volts par rapport à l'électricité là. Et après j'ai eu rendez-vous avec un docteur, il m'a vu et il m'a posé des questions comme quoi, comment je vivais, tout ça. Il m'a posé des questions par rapport à ma maladie que j'ai eue, les problèmes que j'ai maintenant, et pour plus tard me parler de l'opération, tout ça, que je devais avoir. Je fais souvent des bilans de santé tous les mois. Un bilan de santé et des examens. Parce que j'ai très peur pour mes enfants. Voilà. Maintenant, on est habitué à vivre comme ça avec ces ondes électriques. Nous, pour nous, c'est normal maintenant. Parce que depuis tout petit, on vit avec ça. Des fois, les jeunes, ils sautaient de l'autre côté pour s'amuser. Sans savoir les risques qu'il y avait, quoi. J'ai essayé de partir. Mais c'est très dur, il faut un CDI, il faut un garant, il faut toucher beaucoup d'argent pour partir déjà. Et moi, j'ai pas les moyens de partir. Le jour d'aujourd'hui, je vis avec l'RSA, deux enfants, parents isolés, 800 euros. Voilà, c'est pas beaucoup.
Vous avez fait une demande de logement social ?
Aux HLM. J'ai déjà fait un dossier aux HLM, mais c'est très dur de trouver. Moi, je voudrais partir pas en ville, parce que je voudrais pas. Je voudrais un endroit comme ça, avec un petit jardin pour mes enfants. Voilà.
un accident à l'intérieur, puisqu'il y a 4 ou 5 ans, ils avaient un vieux transformateur qui apparemment n'était plus en activité, donc j'avais décidé de le foutre à la ferraille. Et ils avaient vidé, parce que pour fonctionner ces transformateurs, ils mettent du pyralène là-dedans. C'est une huile qui est très dangereuse pour la santé. Il ne faut surtout pas le respirer, mais qui permet apparemment de refroidir les générateurs dedans. Et donc, ils l'avaient vidé, et puis, on ne sait pas pourquoi, il y a eu le feu dans ce poste. Mais il a fallu évacuer tout le monde. Après ça, des gens qui ne se posaient jamais de questions sur le poste, là, d'un coup, t'imagines un peu, là, c'est juste un petit transformateur qui ne fonctionne pas. Et de suite, faut qu'on parte. Donc, il y a eu une paire de mois où les gens ils étaient très angoissés. Ils ont eu très peur pour eux et pour leurs enfants, quoi.
À la Cité de l'Espérance, certains habitants ne veulent pas partir. Beaucoup font avec. Il y a d'abord ceux qui ont acheté un terrain. Il faudrait pouvoir le vendre à un bon prix. Pour les locataires des HLM, c'est l'attente, disent-ils, d'un nouveau logement. Le bailleur social est d'ailleurs en train de mettre en place une mousse, une maîtrise d'œuvres urbaines et sociales. Des urbanistes, sociologues et assistants sociaux vont ainsi venir discuter avec les habitants pour, je cite, « évaluer leurs besoins ». Armand Catala est le directeur général adjoint d'Habitat Audois.
Alors, sans remettre en question ce qui vous est dit par les familles, administrativement, les données sont assez têtues. Jusqu'à il y a quelques jours, quand nous avons échangé, aucune demande administrativement était réalisée par les 22 familles de la Cité L'Espérance. Dans la mesure où il y a un danger, mais qui est moins prégnant, nous avons déjà mis en place, dans le cadre du partenariat, une recherche de terrain, une mobilisation de terrain pour acter de la reconstruction. Deux programmes de construction nouvelle sont actuellement en cours. Programme pour un d'une vingtaine de logements et pour l'autre une dimension plus réduite à 4-5 logements. Il a été précisé, il a été convenu, il est convenu qu'au sein de ces programmes, mais moi je ne veux pas parler, je ne veux surtout pas parler de quotas ou de pourcentages, mais il est prévu effectivement de positionner dans ces nouvelles opérations quelques familles de la Cité L'Espérance.
Quelques familles.
Oui, quelques familles. Donc, je veux pas dire qu'il y a un nombre qui est arrêté, qu'il y a un pourcentage qui est arrêté. Donc, sur une vingtaine de logements, est-ce que ce sera 3, 4, 5 familles? Ce sera, ce qui est certain, ce ne sera pas 19 ni 20, parce qu'on recréerait une nouvelle cité qui fonctionnerait en communauté. Mais très franchement, je pense qu'il est nécessaire de laisser la mousse se dérouler et d'identifier les besoins. Certaines familles souhaitent de l'habitat diffus, d'autres familles pourront peut-être, et je ne veux pas insister, mais pourront peut-être souhaiter rester entre elles. Ce sont vraiment les conclusions de la mousse qui permettront de le préciser.
Pour RTE, il n'y a plus vraiment d'affaires de la Cité de l'Espérance. Preuve en est le tout dernier relevé mené par un cabinet indépendant d'expertise électromagnétique remis à la justice. La valeur maximale relevée sur place est de 0,60 microtesla, quand le seuil réglementaire européen est de 100 microtesla pour des effets immédiats et non à long terme des courants sur l'être humain. Jean-Philippe Bonnet, délégué RTE Méditerranée, m'a emmené faire l'interview près d'un poste électrique dans un quartier de Marseille.
Ça fait plusieurs années que les habitants de la Cité de l'Espérance à Berriac ont exprimé leur détresse, leur souffrance et un certain nombre de maladies. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de lien avec la présence du poste électrique. Et ça, c'est clairement affirmé par l'ensemble des études indépendantes qui ont été menées depuis plus de 10 ans. Je citerai d'abord celle de l'Agence régionale de santé qui a suivi la population pendant 10 ans, qui n'a pas identifié de prévalence particulière des maladies auprès des habitants de la Cité de l'Espérance. Et puis surtout, l'étude indépendante qui a été réalisée à l'automne dernier par un professeur de médecine de la faculté de Montpellier, qui a rencontré une quinzaine d'habitants de la Cité de l'Espérance, qui a passé du temps avec eux, qui a examiné leurs dossiers médicaux, qui a fait réaliser aussi des mesures de champs électromagnétiques dans toute la cité, et qui conclut à l'absence de lien de causalité entre la présence du poste et les maladies qui sont mises en avant par les habitants. Les maisons se sont effectivement construites sous des lignes électriques existantes, puisque RTE n'est pas propriétaire des terrains sous les lignes, et il n'y a pas d'interdiction particulière de construire des maisons, de construire sous des lignes électriques.
Il y avait pourtant eu une autre étude réalisée à la demande des habitants début 2015, menée par le CRIREM, le Centre de Recherche et d'Information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques non ionisants. Eux ont obtenu des mesures plus élevées et parlent de risques potentiels d'effets physiopathologiques prévisibles dans les zones situées à moins de 100 mètres de l'axe de la ligne.
Alors, le CRIREM est un organisme qui n'a rien d'officiel. Il n'a rien d'officiel, c'est un organisme autoproclamé. À ce stade, il n'y a absolument pas de crédit particulier à accorder à ces conclusions. Alors, je dis que le CRIREM a fait des mesures et que rien dans les mesures du CRIREM ne permet d'alerter. Et qu'ensuite, les conclusions que le CRIREM tire de ces mesures nous semblent complètement erronées et sont en contradiction totale avec des décennies d'études, de littérature par les plus grands organismes scientifiques sur les effets des champs électromagnétiques. Enfin, il faut quand même rappeler que l'électricité est un service public, enfin RTE est une entreprise de service public. Ça fait plus d'un siècle qu'on vit avec l'électricité, que nous sommes entourés de réseaux électriques qui nous amènent de la lumière, de la chaleur, du confort, et que donc on a quand même un énorme recul sur l'absence d'effet sur la santé de toutes ces infrastructures. RTE ne remet pas du tout en question la détresse des populations qui vivent aux abords du poste. Je crois que cette détresse, elle est tout à fait légitime. Si on veut bien la traiter, il faut en déterminer les réelles causes. Et ces réelles causes ne sont pas à rechercher sur la présence du poste électrique. C'est multifactorial, mais il y a tout un ensemble de raisons sociales, environnementales, qui peuvent expliquer ces pathologies et qui doivent être traitées en collaboration avec tous les acteurs publics.
Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, qu'on puisse reconnaître qu'on n'est pas capable aujourd'hui de prouver scientifiquement les causes à effet, mais puisqu'on ne sait pas, par précaution, on prend ces maisons, on les déloge, on change chez personnel, le reloge ailleurs. Le bon sens d'un être humain classique, quand vous voyez où vivent les gens, quand vous voyez toutes ces câbles, on n'a qu'à regarder et on comprend de suite que c'est pas sain, quoi. Quand je dis qu'il y a des problèmes de santé, mais je ne parle pas que des problèmes de santé, je parle même des problèmes sociaux. Parce qu'en France, on a tendance à faire des ghettos, peu importe les gens de quelle culture ils sont. Moi, je sais qu'à Berriac, malgré que j'ai trois quarts de ma famille qui sont de Berriac, il se crée des sous-sociétés, parce qu'après tout, on met les gens là, entre eux, et puis il n'y a personne qui vient les déranger. Hein. Voilà. Et c'est vrai que je me révolte contre ça aussi. Parce que quand j'entends parler de liberté, égalité, fraternité, je me dis, elle est où l'égalité, là? Moi, les gens qui veulent rester, je peux le comprendre, mais je peux faire voir à long terme, parce que moi, les personnes qui ont 50, 60 ans, pour eux, ils se disent aujourd'hui où je vais aller. Mais moi, ce que je leur dis aujourd'hui, c'est que vous, peut-être, vous avez 50, 60 ans, vous avez plus d'espoir, mais vos enfants, vos petits-enfants, vous y pensez.
You come down with the thorns in your crown, tearing the flesh from your skull. And the trick of the brain is a trickle in vain as it drips from your ears and your nostrils. But you fill up. peel back my skin, let the daffodils in, as you bury me back to my bed. But you could always make me hurt. 'Cause I will go to the ends of the earth just to hear you sing. Make no mistake that the heartache my way feels like the breath.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Gitans sous haute tension, un reportage de Judith Chétrit réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Pascal Pascariello, à Michel Soulès, à Maître Hichem Laredge, à Sandrine Botte, à Muriel Maille, à Eric Sinatora, à Armand Catala, à Jean-Philippe Bonnet et à Solange Audibert. Sandrine Chaperon, c'est attachée de production des Pieds sur Terre. Liana Valken, c'est notre stagiaire. Page Facebook et compte Twitter attendent vos réactions et vos partages avec impatience. Take my lungs, pour the songs that we sung into a